Carnet de campagne, bonjour. Nous sommes à partir d'aujourd'hui dans le Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire. Trois bassins de vie disposent du principal tissu économique de ce département. Blois, Vendôme et Romorantin-Lanthenay. La partie rurale se partage les activités agricoles, viticoles, l'accueil touristique, le tourisme qui est le septième portefeuille du département. À Blois, justement, le coworking s'invite à nouveau depuis peu avec l'hôte bureau géré par une association. Cet espace de travail partagé, pour éviter de dire coworking à chaque fois, est ouvert sur le monde associatif et l'économie sociale et solidaire locale, comme l'écrit Natacha. Par exemple, les meubles sont conçus par des entreprises solidaires et les ordinateurs fournis par la ressourcerie locale. Il existait déjà un espace de travail au sein de la pépinière d'entreprise installée rue de Bégon à Blois, mais l'autre bureau se veut plus collaboratif, plus ouvert sur la ville avec des animations, des expositions d'artistes. Il y a une page Facebook avec le lien pour cette haute bureau. Comme le principe de ces espaces attire de plus en plus indépendants, en à peine 5 ans, la région est passée d'un seul espace de travail partagé à 21. Invité de ces carnets, Jade Doré, pour l'atelier des talents croisés porté par la Chambre de métiers de l'artisanat. À l'image du coworking, cet atelier rompt l'isolement et croise les compétences. Et puis Jacques Garcia, vous avez le droit de l'appeler Black Jack, promoteur depuis 40 ans du blues en France. Il a ouvert à Chartres-sur-Cher sa maison du blues, bientôt agrémentée d'un musée. Et toute la musique, elle vient de là.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jade Doré, bonjour.
Bonjour.
C'est marrant, si je dis très vite, ça fait j'adorer. J'adore.
Eh oui.
On vous l'a dit. Et on aime beaucoup, alors on va l'adorer peut-être après. L'atelier que vous animez, qui est tout récent, c'est un atelier souhaité par la Chambre de métiers du département de Loire-et-Cher. Il est ouvert depuis peu, depuis janvier dernier. Et c'est un atelier qui s'adresse aux artisans professionnels de la mode.
Exactement. Uniquement dans le domaine de la mode pour l'instant.
Et vous vouliez pour l'instant, parce que l'idée c'est d'ouvrir d'autres ateliers.
L'idée, en effet, c'est si ça fonctionne, c'est d'ouvrir vers d'autres métiers. Ça peut être le bois, le fer, d'autres artisans, quoi.
Mmh. Je vois qu'à la fin de l'année, avant de détailler ce qui se passe à l'atelier, il devrait prendre son indépendance pour devenir une coopérative d'artisans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la chambre de métiers et pour une chambre comme la vôtre, c'est trop lourd à porter?
Je ne sais pas si c'est trop lourd à porter, mais je pense que pour quelque chose comme notre atelier, il est bien aussi, au bout d'un moment, de prendre son indépendance et de savoir voler de ses propres ailes.
Mmh.
Donc, on a en effet une bonne année pour pouvoir être indépendant et après être lâché, quoi.
Oui. Et est-ce que vous avez fait un tour d'horizon avant de décider l'ouverture de cet atelier des artisans et artisans d'art du département?
Bien sûr, ça fait un an et demi qu'on est sur le projet. Un an et demi qu'on est à peu près une dizaine de créateurs vraiment dans le groupe fondateur qui réfléchissons au bon fonctionnement. Est-ce que c'était utile aussi? Des artisans dans toute leur recherche qui ont été sondés. Et ça fait un an et demi, donc c'est quand même un projet qui a été mûrement réfléchi.
Alors c'est un lieu de travail de 250 mètres carrés qui est à Blois. Et que propose cet atelier aux artisans?
Alors cet atelier, on y retrouve à la fois des espaces qui sont collectifs, donc à partager, et des espaces qui sont privés. Donc dans les espaces collectifs, vous avez des machines, on a eu pas mal de subventions pour pouvoir acheter des grosses machines, des outils professionnels que les artisans, souvent, ils n'ont pas les moyens de se payer. Notamment dans le domaine de la couture, avec des machines pour travailler le cuir, on a des brodeuses industrielles. Après, on a aussi des outils comme un studio photo. On a essayé d'investir dans pas mal de choses qui pourraient leur être utiles. Et ensuite, on a aussi des espaces qui sont privés à la location. Ce sont des petits ateliers pour les artisans qui n'ont pas d'atelier ou qui travaillent chez eux où la situation ne leur convenait plus. Donc voilà. Et puis après, par rapport à l'atelier, on partage aussi et on met en œuvre des formations pour les professionnels, toujours bien sûr, des événements. Puis c'est surtout un lieu aussi, on peut se rencontrer, échanger, parler de nos problèmes d'artisans. C'est vraiment un lieu de partage.
Et donc je parlais de l'évolution de l'atelier, il va devenir coopérative à la fin de l'année?
On n'en a pas encore décidé, on est encore en réflexion sur le statut de l'atelier pour l'année 2019.
Mais vous voulez en faire quoi? Une sorte de vitrine, de lieu de savoir-faire, de déposer une marque? Qu'est-ce qui peut ressortir de ce travail conjugué au sein de l'atelier?
c'est aider les artisans, hein. C'est vraiment les aider dans toutes leurs problématiques, les soulever, les former, voilà, c'est surtout ça, on n'est pas là pour autre chose que d'aider des artisans. Et puis s'il y en a qui n'ont plus besoin de l'atelier, ben, qui partent, ben, tant mieux, et puis on pourra accueillir des nouveaux, enfin voilà, c'est ça, ce sera, je pense, un roulement, quoi.
Mmh. Vous dites conjuguer au pluriel nos singularités, donc ça veut dire croiser les talents, c'est peut-être faire de la co-réalisation ou co-production.
Ouais, il y a deux choses. Alors, il y a la première, c'est que faire partie de cet atelier, ça veut pas dire oublier la marque de chacun et le travail de chacun. C'est pas parce qu'on fait partie d'un atelier que tous nos savoir-faire sont mis ensemble. On est vraiment des personnes différentes. Et la deuxième chose, c'est en effet pouvoir faire des projets ensemble. Mmh. Quelqu'un qui fait du vêtement pour enfants et quelqu'un qui fait du vêtement pour maman, par exemple, et ben rien ne leur empêche de faire une collection à elles deux pour merci, faire des petits projets comme ça en commun, ponctuels, des événements. C'est ça aussi, c'est un peu sortir de cette solitude et s'ouvrir un petit peu aux autres.
Et je dis pour les artisans d'art qui nous écoutent, le droit d'entrée de 20 euros, l'adhésion annuelle de soutien est de 50 euros. Voilà, donc c'est quand même à la portée de beaucoup de monde, évidemment. Et alors, si on est intéressé, on vous écrit directement, Jade ?
Oui, tout à fait, par mail éventuellement.
D'accord, donc c'est jdor, pour Jade Doré, jdor@cma pour Chambre de métier de l'artisanat, tradeunion41.fr, c'est une adresse électronique qui va s'afficher à nos pages d'émission. En tout cas, voilà une belle initiative. Merci Jade.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Souvent, nous présentons des histoires personnelles, des parcours de vie qui ne sont pas tracés au cordeau. Charlotte nous conduit aujourd'hui vers un jeune réalisateur de films documentaires qui est parti tourner des films au bout du monde pour le compte d'une fondation new-yorkaise. Il s'appelle Nils Okant et il était, il y a encore peu, au Mexique pour réaliser un film sur la reconstruction du pays après le séisme de septembre dernier. Puis, il a renoué avec l'apiculture en réalisant Ça chauffe pour les abeilles, film primé dans plusieurs festivals portant sur la réalité de l'apiculture dans d'autres sphères du monde, l'apiculture encore, mais cette fois dans sa ferme familiale à Ivoire-le-Marron. Ce retour a été préparé pendant 2 ans et pouvons-nous lire dans la Nouvelle République afin de redonner vie aux 40 hectares de la ferme familiale après avoir obtenu un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole et suivi une formation d'apiculture. De plus, le cinéaste paysan élève des moutons de race sologniote. Il y en a bien 80, quelques 120 ruches en Sologne. Elle s'appelle Ferme de Saint-Marc, nom du domaine familial, qui n'a pas de site internet. Mais je vous conseille la lecture donc de cet article que nos confrères de la Nouvelle République ont consacré il y a peu de temps à ce personnage atypique, cinéaste, paysan, apiculteur, Nils Okant. Jacques Garcia, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous, Jacques ?
Eh ben, très bien.
Ah bon ? Parce qu'on m'a dit que vous aviez le blues.
Ah oui, mais dans le bon sens.
Ouais. Et le blues depuis 40 ans.
Eh oui, oui. Ouais, c'est une grande histoire. Hein.
Comment vous êtes tombé dans le grand bain de cette musique ?
Je dirais que quand j'avais une dizaine d'années, je m'intéressais beaucoup à la musique, puisque c'était le début des années 60 et l'arrivée du rock'n'roll, tout ça. Et puis j'avais été aussi assez marqué par des images à la télé sur les manifs qui se passaient aux États-Unis pour les droits civiques. Donc c'est les deux choses qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier. Puis après je me suis aperçu que tous ces grands groupes de rock comme Led Zeppelin, les Stones et tout ça, eh bien ils avaient tapé dans le blues.
Bien sûr.
Voilà, et donc j'ai fait ce retour en arrière pour aller voir un peu qui c'est qui avait créé tout ça et découvert les bluesmen emblématiques hein, comme les Charlie Patton, les Buka White, les Robert Johnson, voilà.
Ouais. Et vous les avez même rencontrés parce que depuis quelques années, vous allez régulièrement là où il se produit, là où il germe, c'est-à-dire aux États-Unis.
Oui, oui, depuis 2004, on va à peu près tous les ans dans tous les États du Sud et enfin c'est des voyages un peu recherche qui nous ont permis de justement d'aller à la rencontre de bluesmen qu'on avait rencontré quand dans les années 90 j'étais producteur de blues et que j'avais fait venir des gens, donc du coup ça permettait d'aller les revoir là-bas dans leur milieu et de s'apercevoir que la vie n'était pas très rose là-bas justement pour ce public-là.
Ouais. Et donc pendant très nombreuses années, vous avez organisé des tournées, des festivals, des événements, vous avez écrit des bouquins, vous avez organisé des expos, vous avez géré le club au milieu du blues à Ampuy dans le Rhône.
Ouais, ouais.
Et puis là, vous arrivez à Chartres-sur-Cher.
Ouais.
Alors dans le Loir-et-Cher, paraît-il qu'on marche dans la gadoue, vous avez dit on va mettre plutôt le blues à la place.
Oui, oui, donc un peu par hasard qu'on a monté la maison du blues à Châtres, parce que on a trouvé un bâtiment qui correspondait vraiment à nos besoins, c'est-à-dire un lieu vivant avec un club de blues où on puisse écouter de la musique, voilà, se rencontrer tout simplement, hein, avec un café associatif aussi, qui peut aussi fédérer un peu les gens du village et des alentours.
Oui.
Et puis l'espace aussi pour pouvoir faire ce premier musée du blues en France. Voilà,
c'est donc, quoi un musée du blues? Le blues, comme toutes les musiques, c'est quelque chose de vivant, on ne va pas l'enfermer entre quatre murs.
Ah non, non, ce bâtiment consacré complètement au blues, on pourra y venir écouter des concerts, mais en même temps aussi avoir une démarche sur l'histoire de cette musique. Et puis une autre partie qui sera consacrée, on va reconstituer une rue du Mississippi avec des boutiques. Et dans chaque boutique, il y aura un thème qui sera développé. Le premier sera sur l'esclavage et les droits civiques, et puis après on développera plus sur la musique. Quelque chose qui sera très ancré quand même avec les gens qu'on a rencontrés.
Jacques, quel est le public en France aujourd'hui du blues?
Alors je dirais que le public est un public un peu âgé, plutôt un public de la cinquantaine et plus, quoi. Mais je pense que c'est vraiment un problème de diffusion, parce que lorsque l'on fait des concerts ou des festivals et qu'il y a des jeunes qui viennent, ils sont toujours enchantés par cette musique. On a ouvert en avril, à la fin de l'année on avait 500 adhérents, là on recommence l'année, on a déjà 200 adhérents, presque 300 même.
Ouais, pas mal. Et alors voilà. Donc, le musée européen du blues devrait s'ouvrir en 2019.
Oui.
Sous la présidence, alors paraît-il que c'est dans le Mississippi une icône.
Ah oui, c'est Bobby Rush.
Bobby Rush,
oui. C'est une des dernières légendes vraiment du blues. Hein. Bobby Rush, on ne sait pas trop en fait, hein, entre 82 et 84 ans. Il a tourné dans le monde entier, mais il est resté à Jackson, Mississippi. Il vit dans le quartier noir de Jackson. Il est très revendicatif sur le droit des Noirs, hein, aux États-Unis. Voilà. Et quand on lui a proposé d'être président de ce musée, il a toujours été favorable. Il nous a donné un costume de scène, des choses à mettre dans le musée, et puis il nous a assuré qu'il serait là pour l'ouverture. C'est quelqu'un qu'on a présenté dans La Route de Memphis, vous savez, la série de films sur le blues de Scorsese.
Ouais.
C'est un peu l'artiste le plus important du film, quoi.
Ouais. Et donc il y a des concerts régulièrement. Vous trouvez assez de groupes français de blues pour faire une programmation à l'année?
Ah oui, bien sûr. Contrairement à ce qu'on peut penser, la scène de blues en France est assez vivace. Il y a une multitude de groupes. Bon, j'ai la chance d'avoir aussi des réseaux, puisque ça fait longtemps que je travaille un peu dans ce milieu. Donc le tout se fait assez facilement.
Alors, chers amis, si vous souhaitez adhérer à l'association Black Jack Blues, ne vous gênez pas. Vous pouvez suivre aussi les programmes ou aller au café associatif de la Maison du Blues. C'est à Chartres-sur-Cher. Le site, alors, il y a museedublues.free.fr, ouverture l'année prochaine, je le rappelle. Il y a une page Facebook aussi pour la Maison du Blues où vous allez découvrir la bonne tête de Jack. Jack Garcia. Merci, Jacques.
Ah bah, c'est moi qui vous remercie.